Nous avons commencé une série la semaine dernière, mais Dieu ne m'avait pas convaincu d'un titre, donc là oui. Donc on voyait, c'est un C+. Donc on va être jeune aujourd'hui. On va utiliser les styles textos. C+, la vie chrétienne, C+, qu'est-ce que le mot savoir? C'est de le vivre. C'est plus que simplement venir s'asseoir. C'est plus que simplement lire, c'est de le vivre. Et comme vous savez bien, à chaque fois, on a une petite phrase qu'on va lire ensemble et qu'on va partager ensemble. La vie en Christ, c'est plus que le connaître comme sauveur. C'est de vivre chaque jour en reconnaissance, en comptant sur sa grâce et son aide pour me transformer dans un témoin vivant de sa vie en moi. Ça, c'est le but de C plus. C'est plus que simplement se lever le matin. C'est plus que simplement dire je suis chrétien, c'est de le vivre, de le vivre. Alors la semaine dernière, avant de passer à la semaine dernière, et le texte biblique qui suit avec, qui vient avec, c'est Galates 2:20. J'étais crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, ce que maintenant, comme ça, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a un pourquoi de pourquoi vivre plus. Pourquoi c'est plus? Parce qu'il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Et en reconnaissance, je veux vivre pour lui. La semaine dernière, nous avons commencé dans le livre de 1 Jean. Donc, c'est une série de livres de 1 Jean, dans un de ses lettres. Et Jean a commencé à dire, nous l'annonçons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean a pris le temps d'expliquer dans ce moment-là aux gens qui avaient là, qui étaient les gnostiques, qui ne croyaient pas qu'il existait un être supérieur ou un Dieu divin. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'il avait un homme qui était homme, 100% homme, 100% Dieu. Donc Jean va dire dès le commencement, dès le premier verset, celui qui était, et ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, et dès nos cieux, ce que nous avons contemplé, qui nous ont touché concernant la parole de vie a été manifestée. Donc Jean va commencer à dire, je l'ai vu, je l'ai touché, j'ai cru, et je vous l'annonce, c'est ce Christ, c'est ce Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait chair. Et plus tard dans la même lettre, il va dire, c'est lui qui ne confesse pas que Jésus, écoutez bien, c'est lui qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair, il n'est pas de Dieu. C'est intéressant. Parce que si je dis, si, Jésus est mon Dieu, mais c'est qui Jésus? C'est simplement un personnage que je peux lire dans la Bible, ou je peux lire dans l'histoire, ou c'est quelqu'un qui a transformé ma vie. Et si c'est quelqu'un qui a transformé la vie, Jean, dans les premiers versets jusqu'à chapitre 2, verset 2 de la semaine dernière, il dit, je vous l'annonce. C'est annoncé. Et aujourd'hui, la plupart d'entre vous, je crois que vous avez entendu ce message. Vous avez entendu cette annonce. Et vous avez accepté cette annonce. Comment accepte cette annonce? En reconnaissant que nous sommes pécheurs. En reconnaissant qu'on n'a rien, qu'on peut rien faire pour gagner notre salut. Pourquoi? Parce qu'on est pécheurs. Parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque pour arriver au ciel. Parce que si on pourrait arriver au ciel par nos propres moyens, pourquoi Christ est venu mourir? Pourquoi tellement de souffrances? On ne serait pas même assis ce matin ici. C'est plus que ça. La semaine dernière, c'était nous l'annonçons. Cette semaine, c'est nous savons. Nous le savons. Donc, si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir dans 1 Jean. Sinon, de toute façon, ça va être affiché, mais je vous invite à ne pas oublier votre Bible chez vous. Ou soit sur votre téléphone, n'importe, mais avoir quelque chose autrement pour lire, ça nous invite aussi à l'avoir entre nos mains. D'accord? Ça nous invite à ne pas oublier quelque chose chez nous. La Bible dit la chose suivante, verset chapitre 2, verset pour l'instant, et 3 à 11. Si nous gardons ses commandements, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, et ce qui est vrai en lui y est en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qui est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses cieux. Nous savons donc dire et faire, c'est aussi inévitable. Je ne peux pas dire que je connais Dieu et je ne le fais pas. Mes actes vont montrer ce que je crois. La connaissance en soi, c'est important. Mais après, la connaissance sans l'action, elle reste quoi? Inefficace. Quand la Bible dit que Dieu a donné son Fils, ce n'est pas simplement des paroles. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais Dieu prouve son amour envers nous. L'amour, c'est une... Si on va à la question simplement purement illogique, l'amour, c'est une question, c'est un mot assez grand et vaste. Mais Dieu prouve une action qui va montrer ce qu'il va faire. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Qu'est-ce que la Bible dit? Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Est mort. Il y a une action qui est par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il croit. Donc, notre tête, quand on veut faire quelque chose, quand on va bouger notre main, notre tête, notre intelligence, dit à notre volonté, bouge les mains. Ce matin, pour votre café, votre thé, maté, comme je bois du maté, c'est argentin, dans ma tête, c'était quoi? C'était, il faut que je me lève. Donc, c'est tout dans ma tête. Hein? Je me lève, il faut chauffer l'eau, il faut vider le pot. Mais tout ça reste une information. Jusqu'au moment que cela, ce qui est mon intelligence, on voit ça à ma volonté, et ma volonté met en marche quoi? Mon corps. C'est exactement pareil. Il nous a donné son Fils. Son esprit à travers le Père et le Fils. Pour faire quoi? Pour nous faire bouger. Il y a une phrase que j'ai trouvée intéressante. Un écrivain espagnol, Baltasar García Morales. Le dire est aisé, le faire difficile. Le dire est aisé, le faire difficile. Pourquoi? Parce qu'on peut beaucoup parler. Mais après, quand on arrive au moment de le faire, je ne sais pas si vous voyez, il y a une progression dans la lecture, dans la pensée de Jean, de l'écrivain. Si nous gardons ce commandement, nous savons par cela, nous savons par cela que nous, si nous gardons, garder c'est quoi? Garder, c'est pas laisser partir. Donc, on le sait déjà, si nous gardons ce commandement, Nous, par là, savons que nous l'avons connu. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne connaît pas Jésus, qui dit connaître Jésus, il rentre par une oreille, il sort par l'autre. Il n'a pas de transformation véritable. C'est pas un plus. C'est un moins. Ou c'est rien. C'est lui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Alors Joël, je sais que je suis enfant de Dieu. Comment ce verset s'applique à moi? il y a un moment dans la vie où je vais... Imaginez-vous que vous êtes à la maison et vos enfants sont là. Imaginez-vous que vos enfants, ils sont comme ça. Ils vous entendent parler, mais la seule chose qu'ils entendent, c'est vous. Il n'y a jamais une communication réelle. Quand on ne veut pas écouter Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On met nos oreilles, nos mains sur nos oreilles, sur notre cœur. Je ne veux pas entendre parce que je sais que cela va me transformer. Et je ne veux pas te transformer. Je veux garder ma façon d'être. Ce que j'aime faire. Mais si je garde les commandements, si je garde ce qui est écrit, si je le mets en pratique, ce n'est pas difficile. Le verset suivant dit ici, mais verset 6, c'est lui qui dit, c'est lui qui dit qu'il demeure, pas simplement que garde, celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et c'est intéressant, laissez-moi simplement le chercher. Demeurer, ça veut dire vraiment rester, maintenir en communion ininterrompue avec quelqu'un. Demeurer, maintenir une communion ininterrompue avec quelqu'un, adhérer à son parti, si on veut le chercher comme définition. Quelque chose ininterrompu. Quelles sont les choses qui ne peuvent pas interrompre notre communion? C'est le péché. Péché non confessé. Quelque chose qui va à ne pas me laisser vivre jusqu'au bout, pleinement, passionnément Christ. Il garde le commandement. C'est marqué celui qui demeure en lui. Et verset 9, encore. Celui qui dit être dans la lumière et qui est son frère. Dans ma Bible, dit celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est en cœur dans les ténèbres. Verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui, verset 11, celui qui est, mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses cieux. C'est sûr. Je ne sais pas si quand vous rentrez dans un lieu, pour moi, la première chose que je sens, c'est l'odeur de quelqu'un, ou le parfum. Et parfois le parfum, bon, je ne suis pas allergique, mais on a cessé d'utiliser le parfum pour une raison personnelle. Une raison physique, sincèrement, ça peut lui faire mal à la tête. Mais quand on entre, on a cette odeur. Et souvent, c'est oh wow, c'est qui est passé parce qu'il laisse, comment dire, une trace. Une trace. C'est quoi? C'est qui est rentré, qui a laissé une trace? Et je peux voir? Et moi, en tant qu'enfant de Dieu. Quand je passe, je laisse une trace. La Bible dit, c'est intéressant, en 2 Corinthiens 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, quoi ? L'odeur de sa connaissance. » Quand on regarde la Bible, pour ne pas sortir, pour garder on s'appelle tous les exemples de façon biblique. Quand on revient en Ancien Testament, Abraham, chaque fois qu'il bougeait, qu'est-ce qu'il faisait? Un autel. Il avait une marque qu'il laissait. Sa marque déposée à Abraham, c'était un autel. Pourquoi? Parce que les gens qui passaient, qu'est-ce qu'ils voyaient? Il y a quelqu'un qui est passé, il y a quelqu'un qui adorait. Parce qu'il savait qu'un hôtel signifiait quelque chose par rapport à un être divin. Ce n'était pas inconnu pour eux. Quand je passe dans ce monde, quand je vis dans ce monde, est-ce que je laisse une trace? Est-ce que je laisse une odeur de la connaissance de Dieu? Est-ce que les gens veulent dire, j'ai vu Christ en lui? Pas j'ai vu Joël, j'ai vu Marcella. Non, j'ai vu Christ en eux. Il y a quelque chose qu'ils avaient qu'ils m'ont encouragé à continuer. Qui m'ont encouragé à chercher Christ. Ou à chercher quelque chose. Dire à faire est une suite inévitable. Ecclésiaste 10:1 dit ceci, les mouches mortes infectent en fond et fermentent l'huile du parfumeur. Un peu de folie sur la sagesse et sur la gloire. Ma vie peut être un bon odeur. Et parfois, si je laisse une petite mouche, on va le dire comme ça, un péché, venir dans cette odeur de grâce qui est donnée par Christ, venir dans ma vie, on veut donner un odeur qui est appréciable par tous, je vais donner un odeur de mort. Ou aucun odeur. J'espère que vous, je crois que vous comprenez suffisamment ce que je vous dis. La façon de laquelle je parle, la façon de laquelle je pense, la façon de laquelle je vis, montre quel type d'odeur je t'en donne. Et j'aime bien ne pas avoir un mauvais odeur. Vous pouvez demander à ma femme. Chaque fois que je pense à... Ok, d'accord. Il faut que j'aille prendre douche. On n'aime pas. Bon, moi, je n'aime pas. Et si vous n'aimez pas cela de façon physique, combien de plus on ne doit pas aimer avoir une mauvaise odeur de péché en nous. Merci Seigneur que par sa grâce, on est couvert par Christ, par sa grâce, par son pardon, par son amour. Il reste encore des choses à transformer dans notre vie. Nous le savons donc, dire et faire, c'est une suite inévitable. Nous le savons donc, répéter pour mieux saisir. Combien de fois, en tant que papa, en tant que maman, en tant que parent, en tant qu'enfant, nous, nous avons répété 10 000 fois la même chose, nos parents. Jusqu'au moment que ça rentrait. Alors, Jean va faire exactement la même chose. Lisons ensemble et 1 Jean 2, versets 12 à 14. Dit ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il faut que vous prêtiez attention ici, parce qu'ici, il va parler à trois différents niveaux. Petits enfants, il en parle à tous. Après, il va parler au Père, et après, il va parler au Jean-Jean. D'accord? Verset 13. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, donc c'est un présent, d'accord? Jeune, Jean-Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, encore une fois, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit le passé, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeune Jean, parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. C'est presque quoi? Une répétition. Mais il englobe quoi? Il dit, je veux vous le redire, petits enfants à tous, verset 12. Je vous ai écrit parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Une réalité pour tous. Encore une fois, vos péchés étaient pardonnés. C'est une réalité. Et nous le savons, mais je le crie encore une fois, verset suivant. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement. Vous avez eu une relation personnelle avec Jésus-Christ qui est Dieu. Je vous écris, jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez cette puissance en vous, l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas. Simplement pour dire, les gens qui peut-être sont plus jeunes dans leur vie chrétienne ont besoin de ces renforts avec des paroles encourageantes. Vous l'avez vaincu. La Bible dit que n'importe ce qui se passe, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Pas dans mes forces, mais en Christ qui nous a aimés. Verset suivant, pardon, le même verset, je vous ai écrit, passé, petits enfants à nous tous, parce que vous avez connu le Père, encore une fois la même chose. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, la même chose. Je vous ai écrit Jean, parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Pas simplement que c'est vaincu le malin, là, pour les gens, mais aussi que la parole de Dieu demeure en vous. Il fait sa maison chez vous. Et quand on fait sa maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va commencer à nettoyer. Ça veut dire qu'il va prendre le balai. L'Esprit de Dieu va prendre son balai éternel, si on peut dire comme ça. Il va commencer à balayer dans toutes les chambres. Ils vont rentrer dans toutes les chambres et parfois, on ne va pas les laisser entrer. Pourquoi? Parce que dans ces chambres-là, ni mes parents savent, ni moi je veux que tout sache. Pourquoi? Parce que j'ai honte. Parce que j'ai honte. J'ai honte que tu rentres là parce qu'il y a des choses que je vois tout seul, quand je suis seul, ou quand je fais quand je ne suis pas dans la maison, ou ce que je dis quand je suis au travail, ou n'importe quoi, des choses que j'ai honte. Et je ne veux pas que l'Esprit de Dieu le voie. Mais l'Esprit Saint va toujours toquer à cette porte-là. Toujours va être là devant pour dire, laisse-moi rentrer. Et la seule façon de rentrer, il ne va pas le faire à la force. Il pourrait. Il est tout-puissant. Tout-puissant. Mais il va être là à nous attendre jusqu'au moment. Et nous, on ouvre la porte. Pas pour nous punir, pour nous encourager. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Philippiens 3 dit ceci, c'est Paul qui parle. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire quoi? Les mêmes choses. Et pour vous, est salutaire. Et après, Paul va continuer en parlant de sa vie. Et on arrive à ce point-là. Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. C'est quelque chose de constant, de continuel, pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, de connaître. Pour le connaître d'une façon pratique, pas simplement de me remplir la tête d'informations. Paul avait tous les diplômes que vous voulez, mais quand même il avait donné l'aval pour tuer une personne, Étienne. Et Paul a dit, tout ça, tout ce que j'ai, ça ne sert à rien. Mais je fais une seule chose. Je cours vers le but. Connaître Christ. Et connaître Christ par le vivant, par le vivre. Pourquoi? Parce que c'est un plus pour moi. Ce n'est pas sans moi, c'est un plus. Donc si vous retrouvez de la parole de Dieu, des sujets qui se répètent. C'est parce que c'est nécessaire, parce qu'on a besoin de répétitions pour que les choses rentrent dans notre tête. Nous le savons donc, de dire à faire est une suite inévitable. C'est mieux de répéter pour mieux saisir. Mais faire, c'est aussi croire. Faire, c'est aussi quoi? Pourquoi je dis ça? Parce que quand je fais quelque chose, je mets en pratique ce que je crois que c'est bien pour moi. On mange parce qu'on croit que c'est bien pour nous. On travaille parce qu'on croit que cela, c'est bien pour nous parce que va nous rendre financièrement capable de pouvoir manger ou finir le mois. on prie, on fait cette action de prier parce que on sait que Christ va nous répondre d'une façon selon sa volonté. Mais là ici, il va aller encore plus loin, versets 15 à 17 de 1 Jean. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père ne point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, fait. Pas simplement qu'il la connaît, mais qu'il la fait. La volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde. Aimer, ça veut dire que je accepte tout ce que le monde me donne. Accepte sa perspective, accepte sa façon de faire. Et le monde, quand on parle de la parole de Dieu, il faut qu'on comprenne que, par exemple, en Jean même, le livre Jean 3, 6, 4, Dieu a contenu, le monde, il parle de tous les hommes, l'humanité. Mais la Bible aussi parle du monde comme le globe. En parlant de l'espace, vous voyez le monde, la Terre. La Terre, l'humanité, mais aussi on parle du monde comme une entité bien organisée qui s'oppose à Dieu. Et ici, justement, c'est ça. C'est lui, n'aimait pas le monde, ce système spirituel organisé qui s'oppose à Dieu, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour des pères ne pointe en lui. Je ne peux pas dire j'aime Dieu et je suis au milieu d'un péché. Soit j'aime Dieu, ou soit j'aime le péché, ou soit je fais partie, j'aime ce monde-là. Alors comment j'aime le monde? Et là Jean va dire comment? Car tout ce qui est dans ce monde, quoi? La convoitise, il va utiliser deux fois convoitise. Et convoitise, ça veut dire passion construite sur des sentiments forts, des pulsions. Ceci peut être positif ou négatif selon si le désir est inspiré par la foi. Donc, une pulsion, un désir passionné. Donc, la convoitise de la chair. Quand on parle de la convoitise de la chair, on parle de quelque chose sensuel, quelque chose sensoriel. Tout ce que le monde peut offrir par rapport aux relations sexuelles, à la nourriture et les commodités. Convoitise de la chair. Chair, ce n'est pas la chose qu'on mange, d'accord? Chair. Tout ce que cela rentre par les yeux. Par la chair. Tout ce que ça va satisfaire de façon quotidienne, temporelle. Ma chair. Et ces désirs et ces fortes pulsions, on le ressent tous. Chrétiens et non-chrétiens. Mais la façon de répondre à cette pulsion, à cette convoitise, ça va dépendre de combien je crois que Dieu est fort pour moi. Combien je crois que les promesses divines sont là pour moi. Convoitise de la chair. On peut parler de la pornographie, on peut parler de l'adultère, on peut parler de d'autres choses comme ça. Ce sont des choses temporelles qui vont détruire une relation. Qui vont détruire notre vie. Convoitise de la chair, convoitise des cieux. Toutes les choses matérielles, tout ce que je peux avoir. Avidité de posséder des biens terrestres, et spécialement de l'argent. Ce n'est pas mauvais d'avoir vouloir quelque chose. Mais quand cela, ça m'amène à convoiter, j'oublie Dieu. Je veux ça. Il oublie complètement. Posez la question à Dieu. Seigneur, est-ce que tu veux ça pour moi? On a, dans un moment de notre vie, on avait une voiture et ça fonctionnait très bien. Et on a commencé à voir nos amis changer de voiture. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, la convoité des yeux. Oui, on a besoin de nous aussi. Il n'a pas consulté. On était capable de faire d'une façon financière? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas s'il y a au troisième mois, quatrième mois, assez rapidement, la voiture a commencé à avoir des problèmes. Une voiture d'occasion sortie d'un concessionnaire. On s'est rendu vite compte qu'il avait fait un mauvais choix. Ce n'était pas de la voiture, c'était de notre cœur. On a voulu être comme les autres. On avait la capacité financière. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Aujourd'hui, on voit que non. Après, quand on a reconnu notre péché, on a vendu la voiture, on a acheté une autre, que après c'est le moteur. Là, on a prié par contre. On a payé un des prêts qu'il avait demandé. Il nous restait 2000 euros, je crois, ou 1500 euros, quelque chose comme ça. Et avec ce qu'on avait entre les mains, on a acheté une autre voiture. On prie au Seigneur, aide-moi à chercher, on ne peut pas tomber sur la même chose. Quelques temps après, le moteur a un problème. Il a réparé, ça c'était le même prix que de lequel on avait acheté. Seigneur, on a dit, c'est ton problème. Cette fois, on est sûr qu'on a prié, que c'était ta volonté. Qu'est-ce qu'on fait? On a vu la main de Dieu qui a pourvu. Et la voiture noire que vous voyez aujourd'hui, c'est celle que Dieu a pourvu. Quelques personnes ont fait des offrandes. On a pu payer content, si on veut dire comme ça, la voiture. Mais on a compris que la convoitise, ça peut arriver aussi aux chrétiens. Ce n'est pas simplement aux non-chrétiens. La convoitise de la chair, la convoitise des cieux, l'orgueil de la vie, être célèbre, tout ce que je peux être, l'homme mondain essaie de s'exalter avec une autosuffisance orgueilleuse, en rabaisant les autres, en provoquant l'étonnement et la jalousie. On était déjà ensemble. Et un jour, je voyageais, faisais un voyage vers une église en Argentine pour faire des disciples, pour aider avec les jeunes. Et j'étais assis sur le bus. Et là, je ressens une voix qui me dit, Joël, si tu laisses Dieu, parce qu'on était déjà fiancés, si tu laisses Dieu, si tu laisses ta fiancée, je peux te donner tout ce que tu veux. J'avais 20 ans, je crois. Jeune. Avec un possible futur de la musique. La seule chose que je devais faire, c'est de descendre dans le prochain arrêt. La seule chose que cette voix me demandait, descends dans le prochain arrêt, et je fais de toi un meilleur chanteur de ta vie. Et c'était quoi la condition? Laisse. C'était tentant? Oui. Oui. Mais si j'aurais dit oui, tu ne serais pas ici avec vous ce matin. Et je ne suis pas là pour me vanter parce que c'est la moindre chose que je veux faire. Je veux dire que les voix et la tentation de l'ennemi sont puissantes, sont fortes. Ils vont toucher la chose que vous aimez le plus pour vous donner ce qu'il veut, si vous voulez. Et pour vous éloigner de Christ. L'orgueil de la vie, une traduction parle d'un charlatan. Se vantant d'avoir des remèdes pour débarrasser les gens de tous leurs maux, même en produisant des merveilles. Les personnes non régénérées vivent pour atténuer leur peine de leur vie. Et les chrétiens qui vivent pour ce monde, c'est pour combler le manque de puissance de Dieu en eux. Je le redis. Les personnes non régénérées ou non, qui ne connaissent pas Dieu, vivent pour atténuer leur peine et de leur vie. Et les chrétiens qui vivent pour ce monde, c'est pour combler le manque de vie de Christ. De vie de Christ. C'est pourquoi le verset Galates 20, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, il y a de quoi? De la vie. Il y a de l'espérance, il y a de l'espoir, il y a quelque chose pour laquelle je me lève chaque matin. Ce n'est pas pour vivre pour moi-même, c'est vivre pour lui. C'est intéressant que je cherchais un exemple. Et j'ai trouvé comment s'appelle lui? Ah, Vincent Van Gogh. Vous avez entendu parler de lui? C'était un peintre. Mais c'est peintre qui était connu que après sa mort. Et on le traite de fou. Et je vous invite à lire sa vie, son histoire. Il est né dans une famille chrétienne. Il a étudié pour être pasteur, pour être théologien. Mais malheureusement, il avait un problème d'épilepsie et donc ça l'est compliqué. Il est mort comme ça. Mais écoutez ce que lui-même, il écrit à son ami Émile Bernard, ami de Paul Gauguin, peut-être que vous connaissez des peintres, et Cézanne aussi. Van Gogh écrit, et ce Christ, parce qu'il connaissait la théologie, ce Christ est plus un artiste que les artistes. Écoutez bien. Il travaille dans un esprit et une chair vivante. Il fait des hommes au lieu de ses statues. Super. Un peintre qui a vécu une vie pas cool. Il dit, ce Christ est plus un artiste que les artistes. Il travaille dans son esprit et une chair vivante. Il fait des hommes au lieu de ses statues. Je vais vous tutoyer. Qui êtes-vous? Une statue? Ou un homme? Ou une femme? De chair. Une statue ne bouge pas. Il n'y a pas de vie. Le Christ, l'artiste d'artiste. Il bouge de la personne vivante. Et si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez la vie de Christ en vous. C'est une réalité. Et personne ne peut vous enlever la vie de Christ en vous. C'est une promesse. Ni la mort, ni les anges, ni l'avenir peuvent nous séparer, la Bible dit, de l'amour de Christ. Rien. Donc si j'ai ça déjà, quelque chose entre mes mains, que ça ne va pas partir, pourquoi pas laisser Christ vivre en moi? Pourquoi pas qu'il soit un plus, qu'il pas seulement savoir, qu'il soit quelque chose de vécu? Alors comment je peux faire ça? C'est simple. Commencez par remercier. Commencez par, Seigneur, merci le matin. Commencez par quand vous voyez quelqu'un, que Dieu te bénisse. Ça peut choquer plus d'un, mais ça va choquer pour quoi faire? Parce que c'est qui te dit que Dieu te bénisse? C'est qui vient te relever quand tu tombes? C'est qui vient te mettre une main sous l'épaule quand tu pleures? Ce n'est pas simplement parce qu'on a une bonne... parce que je suis empathique avec la personne. C'est parce que Christ est présent. Mes amis, nous sommes guidés et façonnés de telle façon par l'Esprit de Dieu que nous pouvons reconnaître nos péchés, mais aussi les choses fausses quand elles sont présentes. Ce qui détermine notre sensibilité à comprendre comment le monde veut nous éloigner de Dieu, c'est dans la pratique de ce que nous savons, de ce que nous croyons. Il ne faut pas me dire, mais vous croyez qu'il existe Dieu? Si oui, amen. Sinon, c'est le moment de le faire. Si vous croyez qu'il existe Dieu, il faut sortir de cela ici aujourd'hui. Dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Où je suis, utilise-moi, je suis prêt. Écoutez bien, comme je parle avec quelqu'un cette semaine, c'est dangereux. Sabina qui est là, elle le sait aussi. Quand on dit Seigneur, utilise-moi, me voici. Dieu voulant, il va partir au Niger. Et c'est pas que ça va se passer demain. Mais Dieu sait. Mais quand on décide de mettre nos mains dans en Christ, il fait la différence, il nous donne la force tous les jours, même en dépit du danger. De perdre mon travail, de ne plus avoir d'argent, de peut-être que avoir cette peur de que Dieu ne me réponde pas. Mais je crois, parce que je vis Christ. Et la vie de Christ m'a rempli. Je vous invite à prier et après on va terminer en chantant un chant.